Bonjour le Book Club, bonjour Jean-Christophe Napias. J'ai lu votre livre et je me suis même délectée tout l'été, sur la plage bien sûr, de ces dizaines d'extraits d'œuvres littéraires se déroulant en bord de mer. J'ai aimé plonger à l'intérieur et picorer au gré de mes envies d'ailleurs, d'auteur en auteur ou de relecture en découverte. Et quel plaisir de relire les mots de l'amour de Duras ou de la plage au sable blanc de Prévert.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La plage est au programme de votre book club aujourd'hui. Vous y avez peut-être passé du temps cet été ou bien l'avez-vous fui. Vous y êtes peut-être allongé là, tranquille, à écouter la radio ou un peu plus loin à regarder se former les vagues. Ici, la plage, nous la chercherons dans les textes guidés par une anthologie hétéroclite qui suit ce motif à travers 3 siècles de littérature, mais aussi dans des extraits de correspondances, d'écrivains, des poèmes, des paroles de chansons ou des arrêtés municipaux. Tantôt décors, tantôt métaphores, tantôt paradisiaque ou lieu des plus grands drames contemporains, notamment liés à l'exil. Dans cette anthologie figurent des extraits des livres de Chantal Thomas, qui dans son journal de nage, ses souvenirs à marée basse ou de sable et de neige, projette sur cette surface langue, désir, temps et pensée. Elle est notre invitée aujourd'hui, en compagnie de Jean-Christophe Napias, qui a réuni les textes en anthologie. Sable bondé ou mouvant, grain fin, grain rocheux, la plage en littérature, aujourd'hui dans votre book club. Bonjour et bienvenue à tout le monde, on est ensemble pour une heure. Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour Marie Richeux.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, bienvenue dans le Book Club. Je citais quelques-uns des ouvrages dans lesquels on retrouve la plage, mais je sais que cette liste n'est pas exhaustive. Souvenirs de la marée basse, c'était chez Fiction et compagnie au Seuil en 2017, de Sable et de Neige, c'était au Mercure de France dans cette très belle collection 13 et portraits, c'était en 2021, Journal de Nage, toujours au Seuil, en 2022. On aura l'occasion de parler du lien que votre œuvre littéraire entretient avec la plage et peut-être que vous entretenez avec la plage. Merci d'avoir fait le voyage pour venir dans notre studio. Bonjour Jean-Christophe Napias.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans le Book Club. C'est à vous que l'on doit cette anthologie littéraire qui s'appelle Le Grand Livre de la littérature de plage, une anthologie insolite des écrits balnéaires. C'est chez Séguier. On interrogera dans un instant, notamment avec une auditrice, la manière dont vous avez réuni ces textes et comment, ce que vous expliquez en préface, vous les avez glanés. Mais d'habitude, dans le Book Club, on commence toujours par un portrait de nos invités en tant que lecteurs et lectrices. Ici, on va faire l'impasse aujourd'hui d'un portrait comme ça en bonne et due forme. En revanche, on peut parler en préambule du lien qu'il peut y avoir entre la plage, cette étendue de cailloux, de sable, les grèves et la lecture, Chantal Thomas.
Alors, il y a un beau texte, en effet, dans l'anthologie de Philippe Delerme, où il dit combien c'est difficile de lire sur la plage, parce qu'on ne sait pas comment mettre ses bras, sa tête, et en fait, c'est un effort physique considérable et un mal-être. Et je suis tout à fait d'accord sur ce point. Personnellement, moi, je ne lis pas sur la plage. La plage, c'est un mélange d'éblouissement, d'envie, de l'eau, de sensations, de yeux fermés. Et je ne lis pas sur la plage. Et j'ai souvenir d'adolescentes où on portait nos livres de classe sur la plage. Et les pages, il y avait un peu de sable qui se mettait et des bouts de varech comme marque-page.
Vous parlez des yeux fermés, mais il y a aussi l'idée que la plage, c'est, dans certains textes, on le lit, dans les textes que vous avez réunis, Jean-Christophe Napias, c'est une invitation à la contemplation, au regard, et d'une certaine manière à une forme de lecture de ce qui se trouve devant nous. Est-ce que c'est un parallèle qui pourrait être intéressant à réfléchir, l'état dans lequel on se trouve quand on est à la plage et notre possibilité de lire d'une manière particulière le monde et l'état de lectrice et de lecteur?
Ah oui.
Quand on est devant un livre.
Ah oui, je pense justement que la disponibilité, l'immensité de l'horizon nous donne une acuité particulière pour déchiffrer à la fois ce qui nous entoure et ce qui nous dépasse. Et le petit extrait que vous avez choisi, Jean-Christophe Napias, sur Roland Barthes est formidable, parce qu'il dit qu'il y a 1000 signaux qui viennent de l'entourage humain, mais que la mer ne s'offre pas à la sémiologie.
Oui, et puis il y a quelque chose, en effet, où il faut écouter, voir, lire, en effet, beaucoup de choses qui s'écrivent en même temps, les conversations, les corps, la lumière, les paysages.
C'est une musique.
Qu'est-ce que vous pourriez dire, Jean-Christophe Napias, du rapport entre cet espace-là, qui vous a servi de thématique pour traverser bien des étagères de lecture, et la lecture ?
Alors, je suis dans le même cas que Chantal Thomas.
Vous ne lisez pas à la plage?
Alors déjà, je ne vais pas beaucoup à la plage, je ne devrais pas le dire. Mais,
bah si.
Parce que le soleil ne m'aime pas beaucoup et donc ça pose des problèmes. Quoi. Mais je ne lis pas à la plage, c'est vrai que je suis purement dans la sensation de les odeurs, les bruits, voilà, je trouve ça formidable, quoi. Ça me suffit, quoi, plutôt que d'avoir, même c'est presque redondant de lire, ça gênerait la lecture, je pense. Enfin,
oui, quelque chose qui est déjà plein, finalement, ouais. En vous, quand vous êtes à la plage, plein d'éléments, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là.
Oui, c'est ça, je vous dis, il suffit de fermer les yeux. Alors, je cite des paroles de chansons qui ont été écrites par Philippe Catherine pour une chanteuse qui s'appelle Claire, et que je trouve, ça me ravit.
Elle est très belle, cette chanson,
ouais. Oui, voilà, tu fermes les yeux, en Californie, tu ouvres les yeux, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je trouve ça génial. Et c'est ça, en fait, quoi. On ferme les yeux et on est quelque part, on sait pas trop où. Enfin, voilà, c'est un peu le...
Mais en revanche, en effet, on ne lit pas, mais des fragments de nos lectures nous accompagnent.
Mmh. Oui, il y a quelque chose éventuellement qui peut remonter de notre bibliothèque.
Exactement.
Pour venir
d'une lecture proche du matin ou la veille, où le langage arrive par lambeaux, comme ça, et il irradie.
Je dois quand même glisser que moi j'ai quelques souvenirs heureux de lecture à la plage, mais c'est vrai qu'ils se font de plus en plus rares. On va écouter la voix d'Aurélie, auditrice du Book Club. Elle vous pose une question sur votre méthodologie, Jean-Christophe Napias.
Bonjour le Book Club, bonjour Jean-Christophe Napias. Je suis particulièrement admirative du travail de recherche passionnant que vous avez effectué pour cette anthologie et je me demandais par où vous aviez commencé. Comment débuter un tel travail quand on est face au foisonnement et à la richesse de la littérature française? Est-ce que vous avez suivi une méthodologie précise? Merci pour votre réponse.
Bah, merci à vous, Aurélie, qui témoignait aussi des grains de sable comme ça qu'elle avait ramené de sa lecture de l'anthologie. Alors, comment avez-vous travaillé, Jean-Christophe Napias?
D'abord, j'ai été effrayé par l'ampleur du travail, parce que c'est une œuvre de commande, donc ça m'est tombé dessus, j'ai accepté, voilà. Et après, j'ai commencé à éliminer, c'est-à-dire que je me suis dit, comme j'explique dans la préface, je pouvais pas faire le monde entier, je ne pouvais, voilà, donc j'ai commencé par éliminer, je me suis cantonné.
Vous avez éliminé donc d'autres pays que la France,
voilà,
et quoi d'autre?
Voilà, c'est ça. Et donc j'ai gardé que le littoral français, voilà, je me suis dit déjà, c'est, et des auteurs français, quoi, voilà. Et puis après, je me suis lancé, quoi, voilà, donc j'ai commencé par quelques auteurs qui me venaient à l'esprit, voilà.
Vos évidences?
Les évidences.
Quels sont les auteuristes qui sont arrivés en premier?
Alors, il y a eu Flaubert et Maupassant, qui sont beaucoup cités. Je sais pas parce que vous êtes là, mais Chantal Thomas...
Bah, on y pense, évidemment, quand même.
Et c'est mon éditeur qui m'en avait parlé, donc voilà, vous étiez sur la top list. Voilà, et j'ai avancé, et puis après, j'ai eu des conseils, et puis il y a la sérénité. Enfin, c'est vrai qu'on cherche quelque chose, on tombe sur autre chose. Je fais des recherches sur Internet, j'ai feuilleté des livres. Enfin, voilà, c'était un travail énorme, mais de pur plaisir, quoi. Parce que parfois, je tombais... Voilà, comme je suis tombé de l'extrait de Barthes que vous citez, je suis tombé dessus. Je me suis dit, voilà, ça y est, c'est ça que j'attendais, quoi. Voilà, donc c'était un travail très plaisant, quoi.
On y viendra. Il y a vraiment l'idée d'une anthologie très hétéroclite. Il y a de la littérature pure et dure. Dans un instant, on entendra un extrait de correspondance. Vous l'avez dit aussi, des paroles écrites par Philippe Catherine. Donc il y a la chanson qui est présente. Il y a une chanson de Francis Cabrel qui est très belle.
Très belle, oui.
Qui s'appelle Hors saison, sur la plage après que les estivants sont partis. Ouais. Mais il y a aussi des arrêtés municipaux.
Voilà.
Il y a aussi des textes d'anonymes. Pourquoi est-ce que vous êtes allé dans cette couleur littéraire-là?
C'est un peu ce que j'aime. Vous verriez ma bibliothèque, c'est un peu ça, quoi. Il y a tout, si je peux dire, tout et n'importe quoi. Donc j'aime bien la variété, j'aime bien la surprise, j'aime bien Donc pour moi, la littérature, c'est une multitude de choses. Et donc, je me suis dit, si je donne que des textes littéraires, ça va être un peu pas ennuyeux, mais enfin, c'est un peu convenu. Donc je me suis dit, pour le lecteur, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai pas choisi non plus un classement chronologique, je n'ai pas choisi un classement géographique, je n'ai pas choisi un classement alphabétique. J'ai donné un titre à chaque texte et après j'ai classé ces titres
presque
par ordre alphabétique.
Presque plus en constellation d'une certaine manière, c'est comme si des espèces de forces avaient réuni les textes entre eux.
Je sais pas, parfois il y a des chocs absurdes ou formidables, des rapprochements, voilà, c'était vraiment le charme de la surprise et de l'improvisation, voilà.
Et après, ce qui est charmant aussi pour les personnes qui aiment le bord de mer, c'est qu'on peut se promener dans cette anthologie en allant voir selon les mers, selon les littoraux. C'est vrai que par exemple, moi c'est la première fois que je me que je me disais, voir classer des textes en fonction qu'il était question de la Manche, de la Méditerranée. Et ça raconte une autre manière de traverser des bibliothèques, Chantal Thomas.
Ah, c'est vrai. Moi, par exemple, moi, j'ai marqué toutes les pages où il est question d'Arcachon.
Et j'ai vu ne sait pas pourquoi.
Bah, oui, j'ai vu que Hippolyte Taine était allé à Arcachon. Ça m'a renversé de stupeur. Et pour revenir sur la question de la diversité et du disparate des textes, c'est merveilleux. Je dois dire que c'est vraiment poétique comme effet, mais c'est aussi un livre qui apprend énormément l'histoire, et en particulier l'histoire du corps féminin. Et ces règlements municipaux, c'est passionnant parce qu'on voit à quel point ça a été très progressif pour que le corps de la femme apparaisse en maillot de bain. Comment ça a franchement créé quasiment des émeutes, et comment il y avait des spectacles à 10h du matin, les hommes se réunissaient sur la grève, sur les jetées, pour voir avec leurs lorgnettes, pour voir les corps. Et Maupassant a cette phrase impitoyable où il dit « c'est l'instant de vérité », parce que Maupassant, il est à la fois génial pour de l'intérieur, être né dans la mer et savoir nager et savoir naviguer, mais c'est d'une misogynie absolument.
Il y a un texte de Flaubert aussi qui est...
Et je trouve que ces arrêtés municipaux, ils sont comme des petits cailloux comme ça qui disent des points qu'on ne peut pas bouger dans le passé.
Dans notre monde, c'est une manière, probablement comme une autre, quand on choisit un topos pour traverser la littérature, forcément, c'est aussi l'hypothèse que grâce à cela, on se fera raconter le monde. Mais là, c'est vrai que c'est frappant parce que ça touche beaucoup au corps, la question du genre, la question du temps, la question des enfants, la question du rapport à l'eau aussi. C'est-à-dire que vous précisez, Chantal Thomas, être en maillot de bain, mais il y a aussi rentrer dans l'eau pour une femme et s'autoriser à nager, qui est aussi une des thématique de votre œuvre. Et puis, ça permet de voir aussi la manière dont la plage ou les plages ont été utilisées dans l'histoire. Vous commencez aussi par ces plages où l'on vient respirer mieux, où l'on vient se soigner. Et on le retrouve dès les premières pages dans cette correspondance de George Sand. Je vais lire un premier extrait. Cabourg, 5 août 1872, lettre à Monsieur Bertin, père. Nous sommes à Cabourg-les-Bains, Calvados, grand hôtel de la plage. Malgré la pluie et l'orage continuel, nous nous portons tous bien. Mes petites filles ne toussent plus, ni moi. Nous avons plongé nos 3 coqueluches dans la mer, malgré des houles furieuses, et mes 68 ans ne s'en trouvent pas mal. Je suis avec ma charmante belle-fille, les 2 mioches et notre bon ami Plouchu. Nous attendons mon fils et un de mes petits-neveux. Je jouis avec délice de la mer et du farniente. Nous sommes encore ici pour 10 ou 12 jours et nous nous en irons probablement par la Bretagne, en suivant la côte le plus possible pour mettre beaucoup d'air salin dans les poumons fatigués de nos petites. On le disait à l'instant avec Chantal Thomas, Jean-Christophe Napias, il y a une dimension historique que propose cette anthologie, aussi non chronologique qu'elle soit, aussi insolite et hétéroclite. Ça, c'est un aspect qui pourrait être sérieux, notre capacité de lire la plage dans la façon dont elle a trouvé place dans la société française. Cette dimension du soin, elle revient dans beaucoup des textes que vous avez réunis.
Alors, elle revient dans l'historique de la plage en France, puisque c'est on a commencé, les premières, si je puis dire, baigneuses, puisque c'était des femmes qui ont pris les premiers bains de mer en France, et dans les années 1806, quoi, et c'était pour la santé, quoi, mais très vite, en fait, quand même le
côté plaisir.
Plaisir a pris le pas sur puis c'est devenu surtout une mode, parce que il y a eu des influenceuses, comme je dis, de l'époque, les aristocrates qui ont lancé la duchesse de Berry notamment à Dieppe, qui ont lancé la mode, et après tous les autres aristocrates et tous les bourgeois voulaient exactement faire la même chose, et donc c'est devenu vraiment le côté soin a été balayé pratiquement dès les années 1840, quoi. C'était devenu
En 1872, George Sand écrit « Nous avons plongé nos coqueluches ».
Voilà, tout à fait.
Incroyable cette phrase. Oui. Chantal Thomas.
Oui, c'est. Mais ce mélange est est dans certains textes et dans la vérité est très douloureux à imaginer, puisqu'il y a d'une part les corps glorieux, bronzés, étincelants de santé, et de l'autre les corps meurtris, malades, souvent d'enfants. Et jusque très récemment, au fond, jusqu'à la découverte d'un médicament pour la tuberculose, la Côte d'Azur, c'était ça. Donc il y avait
c'est-à-dire le soin,
le désir de guérir, une foi désespérée dans le soleil. Et je pense que la plage, c'est ces deux versants. De même que nager, c'est à la fois l'excitation d'être porté, d'être emporté, de flotter, d'avoir un corps atemporel, quasi aérien. Et aussi la peur. Il y a un texte de Duras qui est l'affrontement à la peur et l'affrontement à la mort, ce qui m'a un peu sidérée.
Depuis toujours, parce qu'en fait, quand on voit les tout-petits qui font leurs premiers pas, on voit bien que ce sont des tempéraments très différents, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont y aller franco, il y en a d'autres qui vont être terrifiés. Et de la même manière, quand on va à l'autre bout de la vie, on voit sur la plage des personnes beaucoup plus âgées qui vont rentrer avec une grâce et une facilité absolue dans l'eau, et d'autres qui, au contraire, on le sent, là, la moindre vaguelette va les frigorifier et les fragiliser. Donc ça veut dire que cet élément-là, ou ces éléments-là, le sable et l'eau, c'est pas des grands mots que de dire que c'est vraiment la jointure entre la vie et la mort tout le temps, quoi.
C'est des révélateurs de nous-mêmes, il me semble aussi. Et chaque texte choisi, et bien choisi, est un révélateur de toute l'œuvre de l'auteur. Ça m'a vraiment frappée.
Dans quel sens vous dites ça? C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est presque métonymique?
Oui, parce que par exemple, bon, je prends Michelet, tout de suite, il entre en dialogue avec la mère. J'allais dire avec la mort, parce que c'est la même chose pour lui. Et il dit même qu'il veut réussir à comprendre la grande langue que parle la mère. C'est extraordinaire.
Oui, on parlait de Barthes qui parlait des signaux à déchiffrer.
Lui, lui par contre, tout doit lui parler, et en particulier la mère. Et il y a la même chose chez Hugo. Et comme par hasard, tous les deux, ce qui les interpelle, ce qui leur donne envie d'écrire, c'est la tempête. C'est absolument pas sentir le sable chaud contre la poitrine.
Non, c'est menace du naufrage, mer grosse. Et le surmonter.
C'est intéressant, vraiment. C'est chaque texte de Marie Darrieussecq, c'est l'étonnement sur qu'est-ce que la plage. C'est un étonnement d'enfant, presque d'avant la parole. C'est une approche complètement poétique et abandonnée. C'est une des choses qui rend ce livre merveilleux, je trouve. C'est aussi qu'on peut, selon ce qu'on aime lire ou selon notre capacité à avoir lu, on peut se raconter toute une histoire de la littérature aussi, et des personnes qui l'écrivent.
Je pense aussi, je crois ne pas me tromper, à un texte de Nathalie Azoulay qui invite sa fille, c'est Nathalie Azoulay, non, qui invite sa fille à rester plus tard sur la plage.
Oui, c'est la mélancolie.
Oui, la mélancolie. Et elle dit, en faisant cela, j'ai l'impression de l'inviter dans des heures interdites, rester à la plage quand tout le monde est parti. Et donc, elles sont toutes les deux sur le sable. On voit très bien ce moment-là. Et elle s'en veut de mettre un mot là-dessus. Elle recouvre la sensation en disant la mélancolie. Elle a l'impression qu'elle met un truc sur les épaules de sa fille avec qui elle partage un très beau moment. C'est un super beau texte. Ça aussi, c'est très beau parce qu'on va d'autrices très contemporaines, de Darrieussecq, Azoulay, à Duras. Vous parliez de Michelet, Hugo. Il y a vraiment... Tout à l'heure, vous disiez que ça vous révèle en tant que lecteur, mais c'est votre façon de lire, de vous promener dans la littérature, Jean-Christophe Napier.
Oui, exactement. Non, c'est enfin, quelque chose tout d'un coup qui m'interpellait. C'est vrai que il y a non bah je vais allez-y.
Non allez-y,
non,
c'est
je
vous.
Je sais plus ce que je voulais dire.
Non, est-ce que ça m'intéressait aussi ce que disait Chantal Thomas de l'idée métonymique, c'est-à-dire que à partir d'un bout de texte, ou bien on a lu et on se dit ah tiens c'est révélateur, ou bien on n'a pas lu et ça peut rendre éventuellement curieux. Vous aviez conscience de produire cet effet-là avec l'anthologie? Est-ce que vous travaillez ce format de l'anthologie?
Honnêtement, non.
Ouais.
C'est peu à peu que ça s'est constitué. En fait, c'est ça qui a été assez fascinant. Il y avait 25% de textes en plus, hein, donc il y en avait encore. Donc ça s'est resserré. Mais c'est vrai que quand j'ai lu le résultat, j'ai été agréablement surpris, quoi, parce qu'il y avait vraiment des choses même que j'avais pas vues. J'avais sélectionné des textes, je ne les avais pas lus à fond, et je le relisais, je me dis enfin, incroyable, c'est vrai. Non, donc c'était très étonnant, quoi. Mais pour Michelet et Hugo, c'est vrai qu'ils sont symptomatiques de cette période où la plage n'était pas encore plage. C'est-à-dire que c'était un rivage, si je puis dire. On se tenait sur le sur le bord. On était au bord de l'océan, au bord de la mer, on contemplait les éléments. Enfin voilà, c'était pas du tout. C'était une autre conception de la plage, de la mer, de la nature. Voilà, ça aussi c'est symptomatique de leur œuvre et de leurs époques.
Quoi. Un petit mot sur les correspondances qui apparaissent. Je pense aussi à des cartes postales de Georges Perec. C'est très beau aussi. Donc ça apparaît dans. C'est un extrait de L'Infraordinaire. Donc vous le reportez comme ça. C'est de toutes petites lignes et on les imagine griffonnées au dos des cartes postales. C'est vrai que le bord de mer, c'est un endroit d'où l'on peut envoyer des cartes postales ou des lettres à l'époque de Sand, et ça crée cette idée-là de s'adresser à. On continue à chercher la plage dans la littérature.
Au-dessus des nuages, une ville s'endort. La lune se lève dans un silence de mort. Mort, c'est le paradis, mais je crois que je dors. Oh mon Dieu, quel ennui. Je rêve de faire l'amour sur la plage, sur le sable chaud. L'amour comme un mirage. Je rêve de faire l'amour sur la plage, sur le sable chaud. L'amour comme un mirage.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Violette Leduc, La Folie en tête, 1970. Quelle corvée ma promenade. J'étais de mauvaise humeur. J'aurais voulu traverser les plaines quand le blé est un gazon. Je devais suivre des sentiers traîtres, m'embrouiller dans les pièges des mauvaises herbes. J'évitais les trous, je tombais dans d'autres trous. Je descendais une pente savonneuse, je glissais, je me retrouvais sur mon derrière. J'étais en colère. Quelle rage, quel vent. Mon foulard plein ma bouche, des mèches claquaient sur mes paupières, je croquais du sable. Le vent me repoussait, il me mettait en loque. Je m'arrêtais au milieu d'étendues blondasses et stériles. Je vérifiais mon château brillant, ma pelote de laine, mes aiguilles, mon cahier à l'intérieur du sac de plage choisi 8 jours avant, à l'enseigne de l'espérance. Je repartis. J'en voulais à mes espadrilles trop neuves, aux cordons blancs sur ma peau blanche. 2 Anglaises me renseignèrent. J'étais sur la route de la plage et je dominais la mer. La plage m'a déçue. Trop minuscule pour être sauvage. Je la regardais du haut de mes herbes rabougries. J'y accédais par plusieurs lacets. Des serviettes aux couleurs vives enlaidissaient le sable. Tous se taisaient. L'office du bronzage était commencé. « La mer est dangereuse, baignez-vous ailleurs », m'a dit un homme habillé. Il me mettait en garde. Il espérait partager sa déception. Me baigner avec leurs flèches dans mon dos, jamais. Ils verraient mes pieds. Ils sortent de l'eau quand je nageote. Ils ne les verront pas. Où me déshabiller? Comment? Marie-Claire racontait la semaine dernière que la peau doit respirer. La mienne cuira. Je m'ennuie. Je m'ennuie déjà. Aujourd'hui, les vagues sont gaies comme des crêtes de coq. Je me déshabillais à la sauvette et je regardais les vagues pendant 1 heure. Elles vivotaient. Je m'en vais. Reconnaître d'abord l'actrice et son petit chien. Je m'en irai après. On est toujours plongé dans le grand livre de la littérature de plage, une anthologie insolite des écrits balnéaires que l'on vous doit, Jean-Christophe Napias, aux éditions Séguier. Ici, je lisais un extrait de La Folie en tête, 1970, Violette Leduc. Alors, puisque la géographie est précise dans cette anthologie, on peut signaler que c'est à Camaret-sur-Mer, Bretagne. C'est donc l'océan Atlantique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte-là? Et Chantal Thomas, vous l'aviez aussi repéré. Vous nous direz pourquoi est-ce qu'il vous intéresse?
Pour être franc, je ne sais absolument plus comment je suis tombé dessus, mais j'étais ravi. Et comme on se le disait hors antenne, c'est vrai que ça, c'est une espèce de condensé des écrits de Violette Leduc, quoi. Donc une espèce de rage, de machin. Voilà. J'ai trouvé ça formidable. Enfin, voilà. Donc je peux pas. Et puis cette rencontre avec Maria Cazares à la fin, ça m'a saisi. Donc c'était.
Oui, voilà. Parce que, donc en effet, je me suis arrêtée avant la fin de l'extrême. Ouais. Reconnaître d'abord l'actrice et son petit chien, je m'en irai après. À la fin de l'extrait du texte, elle reconnaît Maria Cazares. Cette phrase du milieu qu'on retient comme un gimmick, la plage m'a déçu, est une très belle phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet extrait, Chantal Thomas?
Moi, je trouve qu'il dit en condensé, en effet, tout ce qui faisait le génie douloureux de Violette Leduc, le sentiment qu'elle était laide et que la beauté était ailleurs, mais que cette laideur, se déshabiller, ça allait apparaître.
Ils ne verront pas mes pieds.
Exactement. Et que une autre femme va surgir, l'actrice, et qui elle, a toutes les grâces et vers laquelle se dirige son regard et son désir. Mmh. Et je trouve que c'est qui est tellement beau. Mais la plage, c'est ça aussi. La plage, sans qu'on s'en rende compte, condense nos capacités, nos désirs, nos rêveries.
Il y a quelque chose, en effet, dans la manière dont elle regarde Cazares, qui bombe le torse, elle la regarde de loin après qu'elle l'a reconnue. On rappelle que Violette Leduc, c'est l'autrice de Ravage ou de la Bâtarde. En effet, c'est à la fois le désir homosexuel, la plénitude de l'écriture de ce désir, mais la contrariété, la violence de la relation à la mère, à la classe sociale. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas d'un seul sens. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans La plage, c'est-à-dire comme on l'a dit, la vie, la mort, le danger, l'excitation et le rapport au corps, il y a quelque chose de très ambigu, se montrer, pas se montrer.
Oui, en vous écoutant, je réalise aussi que ce texte, il nous a tous les trois attrapés, parce qu'aussi c'est un regard homosexuel de femme vers une autre femme. Alors que ce qui domine, en particulier au XIXe siècle, c'est des regards... voyeurs, bien installés, d'hommes, spectateurs de cette chose extraordinaire de voir la nudité. Mmh. Alors qu'à un moment où il y a une phrase étonnante de Maupassant là-dessus, où les corps étaient pris dans des corsets, où le maximum c'était la main ou le bras. Donc tout d'un coup, c'est la totalité d'un corps qu'il faut deviner à travers. Il y a aussi des textes passionnants, je trouve, sur la mode. Et sur la différence des tissus. Et on voit au fil des années que les tissus sont de plus en plus transparents jusqu'à disparaître. Mais ça commence quand même, justement avec la Duchesse du Berry, avec des laines brunes, épaisses. Des sortes de manteaux sur lesquels quelquefois on mettait une seconde couche pour être sûr que rien de la silhouette ne soit perçu.
En plus, donc, on accompagnait ces dames, enfin, souvent dans des roulottes.
Jusqu'au bord.
Dans l'eau et tout ça.
Voilà, et on les précipitait.
Oui, alors soit on les précipitait, soit il y avait les ancêtres des maîtres nageurs qui déportaient et qui déposaient dans l'eau.
Enfin, la Duchesse du Berry était très demandée.
Voilà.
Mais donc, je pense que c'est ça qui, sans qu'on s'en rende vraiment compte, qui apparaît. Parce que dans les textes de Colette, on pourrait s'attendre à quelque chose comme ça. Or, ils sont pas du tout orientés vers ça. Ils sont orientés vers l'immédiateté de ce qui l'entoure. En particulier les enfants, ce qui l'exaspère.
On y viendra évidemment aux enfants dans un instant, mais là on entend aussi que Violette Leduc mentionne Marie-Claire en italique, donc on imagine bien que c'est le magazine féminin. Et donc autour de la plage, aussi très rapidement, on sent les autres discours. Donc on a entendu les discours restrictifs, les discours masculins, les discours d'arrêtés municipaux, et puis les discours de ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait s'habiller, montrer ou ne pas se montrer. La peau doit respirer, mais la mienne cuira. Quelle insolence. Il y a tout un tas d'injonctions, même quand elles prennent des allures de bons conseils, notamment pour les femmes à la plage, Chantal Thomas.
Ah oui, ben ça continue. C'est vraiment un texte d'une actualité totale. La plage, c'est l'idée, et l'été avec, et ça c'est en contraste avec le 19e siècle, que l'été va être une renaissance et qu'on va retrouver une sorte de jeunesse qui va vous faire traverser les brumes de l'hiver.
Et puis, il y a aussi quelque chose d'intéressant, il me semble, dans cet extrait de Violette Le Duc, c'est qu'elle est déçue. C'est que la plage n'est pas magnifique, la plage est trop petite, et au final, c'est une tonalité qui n'est pas majoritaire au départ. On n'est pas du côté de l'émerveillement. Et là, c'est déceptif. Elle est boudeuse, quoi.
Oui, on a assez peu des textes comme ça qui ne s'émerveillent pas. Enfin, il y a quelques textes comme ça où on a des, j'ai pas les noms en tête, mais d'auteurs qui reviennent dans une plage qu'ils avaient connue 20 ans après et qui ont été envahis justement par les villas, par les baigneurs, et voilà, qui sont totalement épouvantés, quoi. Là, c'est vrai que bon, c'est très déceptif. Mais c'est vrai qu'on peut pas parler d'une plage, en ne parlant que de sa beauté, que tout est beau, que c'est formidable, que les... Enfin, c'est un endroit assez ennuyeux, en fait, une plage d'aujourd'hui, enfin, je trouve. C'est pour ça que j'ai trouvé peu de textes sur... Vous avez des gens allongés sur des serviettes de toilette.
Parfois, bah, elle dit les couleurs criardes, voilà. Parfois, il dit, visages, ouais, le sable.
C'est un lieu ennuyeux, quoi.
Mais, ça dépend pour qui, moi j'adore.
Mais oui, non, mais littérairement, c'est difficile de rendre une plage, quoi.
Mais c'est drôle, parce que la plupart des textes, beaucoup en tous les cas, les textes descriptifs, ils reprennent les mêmes thèmes. Donc, ces couleurs criardes des serviettes pour Violette Le Duc. Pour Maupassant, par exemple, c'est une floraison. Et beaucoup de choses comme ça. La mer, quand elle devient verte, ça peut être terrifiant et venimeux. Ça peut être aussi de l'émeraude. Et je trouve que c'est un jeu de variations.
De variations infinies sur les mêmes...
C'est excitant, comme... Oui.
Vous parliez des enfants qui agacent Colette. Évidemment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, si, pourquoi je dis évidemment, mais il y a quelque chose de l'enfance en tout cas qui revient, ou bien des enfants que l'on observe à la plage, ou bien l'enfant que l'on se souvient avoir été sur la plage, c'est un motif qui revient, ou alors la plage comme moyen de transport vers le passé et vers l'enfance. On va aller dans ces territoires-là et du côté de chez vous aussi, Chantal Thomas.
Non.
Vas-y, je fais le trou.
Non, mais ça y est, il est déjà fait le trou.
Il y a du profond sang. Attends, je vais faire les murailles. J'ai dit à chaque fois que c'est mes verres.
Non, mais ça, c'est pas la muraille.
Attends, je vais faire les ronds là, les trucs. Moi, c'est comme ça, je fais un rond,
ouais.
Je fais comme ça, après je le remets comme ça, et après j'aplatis comme ça, je remets un peu de sable, et je raplatis, jusqu'à temps qu'il soit bien. Sinon, j'en ai une secrète.
C'est quoi ta technique secrète?
J'aplatis, je fais n'importe quoi, comme ça, et après j'aplatis, et après... Je tapote. Après, je fais bien au carré. Et après, ça le fait. Sinon, après, on fait des murailles. Des murailles pour protéger le château. Et des fois, on fait des petites guerres. On fait des petites guerres, on se casse nos châteaux comme ça. On tape, des fois, on fait comme ça. Et...
Tiens, ça. Oh, merci.
Et après, elle me dit merci. Moi, je lui dis pas de quoi.
Nous, les enfants, nous entrons dans l'eau en riant. Nous nous éclaboussons, nous nous faisons tomber. Entrer dans l'eau n'est pas un geste décisif pour nous. L'eau n'a pas de seuil. Les grandes personnes prennent la chose tout autrement. Il suffit d'observer leurs hésitations, leur temps d'arrêt, leur manie, se passer de l'eau sur la nuque, faire des ronds avec leurs mains, comme si elles cherchaient à cerner leur degré de frilosité, ou bien à s'interdire par des cercles répétés de retourner sur la rive. La plupart entrent dans la mer millimètre par millimètre, avec de plus en plus de lenteur au fur et à mesure que l'eau gagne leur zone délicate. Frilosité des grandes personnes. Leur envoyer quelques gouttes à ce moment-là révèle leur nature hystérique. Elles s'énervent, elles hurlent, et cela devant tout le monde. C'est toute une histoire pour les adultes, surtout pour les femmes, d'entrer dans l'eau. Certains passent plus de temps à y entrer qu'à se baigner. Elle pourrait rétorquer que la difficulté avec nous, les enfants, est que nous sortions de l'eau. En réalité, ça n'a rien à voir. Nous faisons traîner, nous supplions. Encore 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. Mais c'est pour faire durer le plaisir. À force d'appels répétés de la part des parents, de supplications inutiles de notre part, nous finissons par nous y résoudre. Quelquefois, nous avons tant tardé que nous tremblons et claquons des dents. Nous avons le bout des doigts fripé. Et malgré friction, maillot sec, chemise et pullover, rien ne nous réchauffe. Peu importe. Si c'était possible, nous retournerions à l'eau, grelottants et refroidis comme nous sommes, et nous reprendrions nos jeux. Les parents viendraient nous repêcher tout bleus, et ceux qui auraient encore la force de s'exprimer balbutieraient que non, ils ne veulent pas sortir de l'eau. Que surtout, on ne les bassine plus avec cette promesse supposée, calmer notre fanatisme de l'eau, surtout qu'ils n'entendent plus cette fadaise. Vous reviendrez demain. Demain n'existe pas. Enfants bleus de froid, nous voulons la morsure cruelle du présent. Toujours à la plage dans ce book club qui est plongé dans une anthologie littéraire insolite signée Jean-Christophe Napias. Et ici, c'était dans votre œuvre, Chantal Thomas, Souvenir de la marée basse, publié en 2017. Puisque je précise la géographie, on est à Arcachon, sud-ouest, océan Atlantique, là aussi. Peut-être partons de ce texte-là avant de déplier la place qu'occupe la plage dans votre œuvre de manière générale. Souvenir de la marée basse et cette morsure cruelle du présent, la manière qu'a l'enfance d'habiter la plage. Qu'est-ce que c'est que ce texte-là et quel rôle, quelle place, quel lieu y est la plage ?
C'est tout Souvenir de la marée basse a été écrit dans ce présent. Dans une... Non pas... Dans, selon un regard tourné vers l'enfance, mais dans ce que l'enfance avait maintenu en moi, dans les zones intactes d'enfance. Je l'écris à partir de là, et c'est pourquoi, en l'écoutant, je voyais très exactement comment ma mère entrait dans l'eau, justement, à la différence de ces femmes. Elle entrait d'un coup avec une sûreté et une souplesse absolue. Et je pense que c'est aussi une rage ancienne où on dit toujours aux enfants « mais demain on viendra, mais attends, ça on te l'apportera plus tard ». Cette idée d'un futur auquel les enfants ne croient pas. Et moi j'ai été constituée par une sorte de pas croire à ces promesses et de pas me soucier du futur du coup. Et paradoxalement, ça m'a laissée complètement insouciante par rapport à l'avenir parce que je trouvais que c'était insupportable dans quel calcul...
Cela nous plongeait obligatoirement.
Exactement, des agendas qui n'étaient pas du tout les nôtres, et aussi des avidités, des désirs dont nous on sent l'urgence, et dont l'enfant sent quelquefois le tragique. Par exemple, sur les plages, la séparation des amis. Quand en 10 minutes, on vous dit « Ah ben au revoir, on reviendra l'année prochaine ». Des séparations comme ça, et ce monde qui est aussi intense et aussi romanesque que le monde des adultes, c'est celui-ci que j'ai voulu faire ressurgir.
Oui,
pas comme une nostalgie, mais comme une force pour rappeler son autonomie et sa véracité.
D'ailleurs, on le voit bien dans ce texte-là, le « nous » que vous employez, Chantal Thomas, il vous concerne tout de suite en tant que narratrice, en tant qu'autrice, en tant qu'enfant. C'est-à-dire que la morsure cruelle du présent, elle a encore lieu pour ce texte-là, dans ce texte-là. Et c'est vrai que si on s'attarde un petit peu sur ces corps bleuis, ces corps grelottants, ces corps transis de froid, ces doigts fripés, il y a un jusque-boutisme de l'enfance sur la plage qui est parfaitement saisi. Est-ce que vous savez pourquoi vous avez gardé ce texte-là, Jean-Christophe Napias, vous vous en souvenez ?
Oui. Non, parce que vous dites que ça fait ressurgir des images de votre enfance, mais je trouve que c'est un générateur d'images absolues. Enfin, quand on lit ce texte-là, enfin tout le monde, tout d'un coup, il y a des images qui s'imposent. Voilà, donc c'est un
et des sons.
Oui,
encore 3 minutes, encore voilà, deux minutes, encore 1 minute, qui ne fonctionne pas.
Il y a un texte aussi de Jean-René Huguenin où il parle d'un petit garçon qui sort de l'eau grelottant et qui mange un petit sandwich tout mouillé, tout ça. Quoi. Et je trouve que les deux se font écho voilà, c'est vraiment des images de l'enfance à la fois terribles et formidables. Quoi.
De même, les enfants apeurés ou les enfants ravis, on entendait dans un extrait de documentaire radiophonique ces enfants, ces deux petits garçons qui parlaient de leur construction de château. Comme vous dites, leur monde est aussi romanesque que celui des adultes, aussi puissant. Je pense à quelqu'un qui a écrit un livre sur les châteaux de sable qui s'appelle Jean-Yves Jouannet. C'est hyper beau,
voilà,
c'est un texte magnifique où il est autant question de la guerre, lui qui a fait l'encyclopédie de la guerre, que du temps qui passe, que de la cruauté de l'enfance. Donc ça, c'est Souvenir de la marée basse, paru en 2017. J'ai devant moi Journal de nage, on est aussi à la plage, ou plutôt dans l'eau, Chantal Thomas, avec ce texte-là. Est-ce que vous voulez bien nous dire la valeur qu'a la plage dans Journal de nage?
Oui, alors il est écrit juste après le Covid, donc c'était... J'avais mis en exergue une citation de Kafka que je trouve extraordinaire, comme sont loin de moi les muscles de mes bras. Et c'était pour se rapprocher des muscles perdus pendant la maladie, pendant l'enfermement, pendant la terreur. Mmh. Et il est complètement différent de Souvenir de la marée basse, en effet. Mais en même temps, il s'appuie et il trouve son énergie dans le nous de ces enfants qui ne veulent pas capituler.
Mmh.
Et c'est après une guerre, d'une certaine façon, puisque ça a métamorphosé la société à jamais, le Covid. Et Journal d'un marée basse, c'est aussi, comme tout journal, et moi je suis une grande lectrice des journaux, j'adore ça, comme les correspondances. D'ailleurs, à partir de cette anthologie, il y en a que je vais lire, que je n'avais jamais lu.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Flaubert à Louis Scollet, que j'ai pas encore lu. Et parce que c'est la défense du quotidien. De faire de chaque jour, quand on dit bonjour, bonne journée, de le prendre littéralement, au sens où c'est vraiment une mesure de temps absolue. Et non, encore une fois, quelque chose qui se diluerait dans une totalité plus vaste. Mmh. Et Journal de nage, je l'écris dans le ravissement de retrouver l'énergie, de retrouver les muscles de mes bras, de retrouver aussi la lumière, et dans une écoute aussi justement des voix d'enfants, de leur extraordinaire gaieté, de l'envie de rire qui les prend quand ils sont renversés. Qui prend tout le monde, d'ailleurs, quand on est renversé par une vague.
Il y a une forme, je me souviens pas l'avoir lu dans les textes de l'anthologie, mais il y a une certaine mise à égalité dans les plages contemporaines par les éléments. C'est-à-dire que on est trempé pareil, on est surpris par une vague pareil, on a du sable entre les doigts de pied pareil, on a un maillot qui vous rentre à peu près dans les fesses pareil. Il y a quelque chose, bien sûr, il y a plein d'inégalités qui surgissent, qui peuvent être visibles, sociales, corporelles, mais il y a quand même une petite mise à égalité par
Exactement. Et c'est la grande différence avec le 19e siècle, où on ne cesse de seriner aux gens. Attention, c'est très dangereux si vous vous mêlez à des gens qui ne sont pas de votre classe. Mmh. Donc comment faire pour être à la fois poli, sociable, sans vous laisser entamer par les classes dangereuses? C'est constant.
Jusqu'à preuve du contraire, malheureusement, c'est un recul, mais le littoral est en accès libre et donc on doit pouvoir gratuitement partager cet endroit, partager les plages.
Mais c'est vrai qu'on parlait de... Tout à l'heure, je parlais de la plage, que j'aimais rien tant que de fermer les yeux. En fait, ce qu'on entend, c'est souvent les cris, uniquement les cris des enfants. Enfin, on n'entend pas des adultes. Voilà, c'est vraiment l'espèce de fond sonore absolu d'une plage. Quoi, pour le
jusqu'à l'heure interdite que décrit Nathalie Azoulay, où ça s'en va et en effet, tout baisse d'intensité. Et il y a autre chose qui se passe sur la plage. Vous évoquer un troisième livre avec vous qui est De sable et de neige, qui est d'une autre tonalité, Chantal Thomas, qui était paru au Mercure de France dans la collection 13 et portraits. Là, la plage avait une autre place, les grains aussi. Est-ce que vous voulez bien en dire deux mots?
Oui, là, c'est pris dans un regard beaucoup plus vaste et c'est quelque chose sur comment on est formé non seulement dans la joie ou dans les sentiments, mais aussi esthétiquement. Par l'endroit où on grandit, en particulier quand on grandit au bord d'une plage. Mmh. Et je me suis aperçue beaucoup plus tard, et aussi par le silence de mon père avec qui je faisais du bateau, combien cette plage d'Arcachon, ou le Cap Ferret en face, en tous les cas le bassin, et la dune du Pilat, m'ont formée à une esthétique qui est très japonaise. Et quand j'ai lu des haïkus, j'ai compris que c'était mon idéal. Par exemple, dans cette anthologie, j'ai beaucoup de mal avec les extraits qui sont de Zola ou de Balzac.
Et pour l'inverse, du haïku, c'est-à-dire que ça prend toute la plage et une densité.
Je me dis, ces intrigues, elles sont déplacées.
Oui, mais c'est assez beau parce que dans ce texte-là magnifique, qui est par ailleurs, comme à chaque fois dans 13 et portraits, ponctué d'images, il y a quelque chose de la formation du regard, mais aussi de la formation du rapport à la perte dans ce texte-là, mais qui est lié au paysage. Et vous montrez comment on se fabrique un être, en fait, en fréquentant des lieux, et que c'est extrêmement puissant.
Oui, en fréquentant des lieux et en aimant celui qui vous fait aimer ces lieux. Donc, on vient au texte d'Azoulay avec sa mère, moi c'était avec mon père. Et quelqu'un, ça peut être une amie aussi ou un oncle, vous désigne la beauté.
Regardez côte à côte, ouais.
Voilà.
Me reviennent des extraits de ce très beau texte que vous avez écrit. Ouais. La puissance de regarder côte à côte un même paysage et pourquoi pas une plage. Alors on l'a dit, vous l'avez dit tous les deux, Victor Hugo a un rapport à la plage lié au drame et vous portez à cette anthologie un extrait des Misérables, on y vient. Il sentit qu'il entrait dans l'eau et qu'il avait sous ses pieds non plus du pavé mais de la vase. Il arrive parfois, sur des certaines côtes de Bretagne ou d'Écosse, qu'un homme, un voyageur ou un pêcheur, cheminant à marée basse sur la grève loin du rivage, s'aperçoit soudainement que depuis plusieurs minutes, il marche avec quelque peine. La plage est sous ses pieds comme de la poix, la semelle s'y attache, ce n'est plus du sable, c'est de la glu. Il est condamné à cet épouvantable enterrement long, infaillible, implacable, impossible à retarder ni à hâter, qui dure des heures, qui n'en finit pas, qui vous prend debout, libre et en pleine santé, qui vous tire par les pieds, qui à chaque effort que vous tentez, à chaque clameur que vous poussez, vous entraîne un peu plus bas, qui a l'air de vous punir de votre résistance par un redoublement d'étreinte, qui fait rentrer lentement l'homme dans la terre en lui laissant tout le temps de regarder l'horizon, les arbres, les campagnes vertes, les fumées des villages dans la plaine, les voiles des navires sur la mer, les oiseaux qui volent et qui chantent, le soleil et le ciel. L'enlisement, c'est le sépulcre qui se fait marée et qui monte du fond de la terre vers un vivant. Chaque minute est une ensevelisseuse inexorable. Le misérable essaye de s'asseoir, de se coucher, de ramper. Tous les mouvements qu'il fait l'enterre, il se redresse, il enfonce, il se sent engloutir, il hurle, implore, crie aux nuées, se tord les bras, désespère. Le voilà dans le sable jusqu'au ventre. Le sable atteint la poitrine, il n'est plus qu'un buste. Il élève les mains, jette des gémissements furieux, crispe ses ongles sur la grève, veut se retenir à cette cendre, s'appuie sur les coudes pour s'arracher de cette gaine molle, sanglote frénétiquement. Le sable monte, le sable atteint les épaules, le sable atteint le cou, la face seule est visible maintenant. La bouche crie, le sable l'emplit, silence. Les yeux regardent encore, le sable les ferme, nuit. Puis le front décroît, un peu de chevelure frissonne au-dessus du sable, une main sort, troue la surface de la grève, remue et s'agite et disparaît. Sinistre effacement d'un homme. C'est le naufrage ailleurs que dans l'eau. C'est la terre noyant l'homme, la terre pénétrée d'océan devient piège. Elle s'offre comme une plaine et s'ouvre comme une onde. L'abîme a de ses trahisons.
Un corps sur les galets, un corps sur un rivage en bord de mer fait immédiatement écho aux réfugiés et à la tragédie contemporaine des migrations. Hein. C'est-à-dire, et ça fait aussi écho dans le même temps. C'est pour ça que c'est une image qui est d'ailleurs contemporaine, parce qu'elle fait le lien entre l'actualité et l'Antiquité. En fait, c'est aussi Ulysse qui échoue sur un rivage. Il y a Pasolini également qui passe dans le livre. C'est-à-dire, il y a aussi toutes les plages. Les littoraux sont des zones critiques, ce sont des lieux interlopes, ce sont des lieux de collusion, c'est des lieux où justement le continent rencontre la Terre et de disparition. C'est des lieux où il se passe des choses, c'est vraiment des lieux de choc et de rencontre. Un corps sur une plage, ça dit tout ça.
C'est la voix de la romancière Maëlys de Kerangal en 2024 dans la grande librairie d'Augustin Trapenard. Et juste avant, un extrait des Misérables de Victor Hugo pour terminer cette émission consacrée à cette anthologie de la littérature de plage. Peut-être sur un aspect plus dramatique encore. On a bien dit que c'était un espace ambigu, mais là c'est plus noir, c'est du côté du naufrage. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait des Misérables, Jean-Christophe Napias?
C'est vrai, de vous l'entendre lire, je comprends pourquoi. Voilà, non, c'est un texte magnifique. Enfin, je suis pas un grand amateur de Victor Hugo, mais quand voilà, je trouve que c'est du grand Hugo. Quoi, il décrit, enfin, c'est magnifique. Enfin, c'est un texte saisissant. Quoi, voilà, je peux pas en dire plus. Quoi, et puis bon, métaphoriquement, c'est vrai que ça dit beaucoup de choses aussi. Voilà, mais c'est un très beau texte. Quoi.
Dans votre préface, vous signez aussi l'évolution du rapport à la plage dans la littérature et vous dites combien est-ce qu'il y a des traces dans la littérature plus contemporaine d'une plage de décor dramatique.
Elle est beaucoup plus sombre. Et c'est vrai que même notre vision de la plage est devenue plus sombre à cause d'une part du cinéma, des séries télé et de l'actualité en général, des images qu'on peut voir à la télévision. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut plus regarder une plage de la même manière qu'auparavant. Quoi. Donc je pense que c'est vrai que ça, c'est...
On l'entendait dans la voix de Maëlys de Kerangal, qui faisait paraître en septembre 2024 un très beau livre qui s'appelle « Jour de ressac » et qui commence par la découverte très mystérieuse d'un corps non identifié sur la plage du Havre. Et elle le dit très bien, un corps mort sur la plage dans le monde contemporain du XXIe siècle, Chantal Thomas. Ça appelle des images à la fois très anciennes et peut nous ramener vers Homère, peut nous ramener vers Ulysse, vers les dangers, mais aussi malheureusement vers la photo du petit corps mort de Alan Kurdi, un enfant syrien trouvé en 2015 mort sur la plage. Moi, je sais qu'en ouvrant cette anthologie de littérature où existe le topos plage, je me disais, il y a quelque chose qu'on ne peut plus penser autrement aujourd'hui.
Oui.
En tout cas, pas penser autrement, mais penser sans ça. On ne peut pas penser sans les corps échoués, les ossements des migrantes et des migrants qu'on retrouve parfois sur des plages. On ne peut plus faire abstraction de ça.
Oui, de même que ces rivages sur lesquels on peut se reposer les yeux fermés, c'est des rivages qui sont attendus, voulus, nécessités, comme la vie, par les gens qui traversent les océans,
absolument,
ou les passages. Ou les... Et ça, c'est une autre vision. Ça renverse un peu, je trouve, notre vision, comme si ces plages qui existaient en soi, on les avait extraites de qu'est-ce qu'elles peuvent représenter d'inaccessible. À propos de l'histoire des rivages, il y a aussi le rivage, il y a beaucoup de textes sur les femmes attendant le retour des marins, qui est quelque chose qui a disparu aussi. Et combien... la noyade, les noyés, les corps sur la plage, c'était ça aussi. Et je pense que cette part de mort qui est prise dans un combat d'actualité, elle a quand même été là tout au long,
bien sûr,
je trouve, il me semble. Et elle a été effacée, évidemment, par les journaux de mode ou par les règlements municipaux.
Le Book Club continue. Et le Book Club continue à cette heure-ci en vous donnant des petits conseils. En tout cas, on va partager des initiatives, des rendez-vous, des promenades chaque jour ici, en lien toujours avec le livre et la lecture. Si vous voulez nous en faire part, vous pouvez nous écrire à lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, je vous propose de rester près de l'eau. C'est au bord du lac Léman, puisque du 5 au 7 septembre se tient à Morges, en Suisse, le festival Le Livre sur les quais, qui réunit 160 autoristes, qui prend soin bien sûr de brasser les langues, puisque en Suisse, elles se côtoient. Mais vous pourrez aussi écouter ou rencontrer des autoristes de la rentrée littéraire, des auteurs étrangers, ou alors vous laisser tenter par une des propositions du festival, par exemple d'aller écouter Bénédicte Savoie parler de son essai « À qui appartient la beauté ?» pour une émission en direct de la RTS. Moi, c'est ça que j'aurais fait si j'avais été à Morges. Et puis, regardez toujours les différentes propositions qui sont faites à destination des enfants. Il y a par exemple un rallye littérature jeunesse
jeunesse, voilà, où on peut se rendre sous une tente dédiée et trouver plein de livres jeunesse. Le livre Sur les quais du 5 au 7 septembre, c'est à Morges, en Suisse, et c'est présidé par le romancier Sorge Chalandon, qui sera bientôt un invité du Book Club. Envoyez-nous des cartes postales de là-bas.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et le Book Club termine toujours par un grand jeu qu'on appelle le grand jeu des pages musicales. Donc nous, on cherche pas l'évocation de la plage, mais on cherche des évocations de musique, d'airs musicaux. Donc à chaque fois que nos auditeurs et auditrices trouvent l'évocation d'un air musical, ils peuvent nous envoyer une photo ou elle peut nous envoyer une photo ou via le mail lebookclub@radiofrance.com ou alors directement par le compte Instagram. Aujourd'hui, c'est Diane qui nous a envoyé un mail et qui a choisi un extrait de Piranhas paru en 2018 aux éditions Gallimard. C'est un texte de Roberto Savio, traduit de l'italien par Vincent Reynaud. Nicolas avait pris les 15 000 euros. Il les avait partagés en 10 petits tas et en avait remis 5 au capitaine du navire. « On veut un forfait », lui avait-il dit. Le dit forfait comprenait la jouissance exclusive d'un bateau d'ordinaire réservé au mariage et aux croisières dans le golfe de Naples. Il pouvait accueillir 200 personnes et Nicolas le voulait tout pour la Paranza et leurs petites amies. Il prendrait la mer dans 2 heures, peu avant le coucher de soleil, et longerait Ischia, effleurant Capri et Sorrente. L'agence de voyage n'avait pas eu le temps de faire retirer les décorations du mariage fêté la veille, mais elle fournissait l'apéritif et le dîner, ainsi que 2 serveurs. Nicolas avait répondu que les décorations n'étaient pas un problème. Encore mieux, s'était-il dit. Et il s'était occupé personnellement de la musique qui accompagnerait la croisière. Rigoureusement italienne. Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Laura Pausini. Ils danseraient garçon contre fille toute la nuit, qui serait la plus belle de leur vie.
Et ogni volta che ritorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra d'averti vicino, ogni volta che mi guardo intorno, ogni volta che non me ne accorgo, ogni volta che viene giorno. Ogni volta che mi sveglio, ogni volta che mi sbaglio, ogni volta che sono sicuro e ogni volta che mi sembra solo, ogni volta che mi viene in mente qualche cosa che non c'entra niente, ogni volta. E ogni volta che non so volete.
Tout ce book club passé à évoquer des textes qui évoquent la plage grâce au grand livre de la littérature de plage, cette anthologie. On a parlé plein de textes, mais est-ce qu'il y en a un comme ça que vous voudriez aussi signaler, Jean-Christophe Napias ?
Il y a un tout petit extrait de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan que, voilà, que je trouve charmant, qui a une magnifique chute, enfin, qui est formidable.
Qu'est-ce qu'elle y dit ?
Rien, c'est tout, c'est le bonheur de l'été, de la chaleur, de la plage. Alors c'est totalement insouciant par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais c'est parfait, enfin, j'adore ce texte.
Et pareil pour vous, un dernier texte qu'on n'aurait pas évoqué, Chantal Thomas.
Ce texte de Sagan, je l'adore aussi, qu'elle dit que l'eau est fraîche et transparente.
Tout simplement.
Oui, mais le texte qui m'a plu et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est les 400 coups de Truffaut qui sont évoqués. Et je pense que chacun a l'image toujours de l'enfant qui court vers la mer.
C'est la fin du film, et c'est un extrait du scénario, et c'est une scène, muette. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Cette anthologie a paru aux éditions Séguier, et on a parlé de vos nombreux livres. Chantal Thomas, j'ai devant moi le journal de neige paru au Seuil, mais on mettra toutes les références sur le site du Book Club. Faut plein de monde pour fabriquer une radio publique de qualité, chacun chacune avec sa spécialité et son savoir.
savoir-faire. Si vous voulez qu'on vous raconte, posez-nous des questions par mail et on vous racontera comment on la fabrique. Aujourd'hui au son, par exemple, c'était Nicolas Lerollet. À la réalisation, Vivien Demeyer et toute la bande, Marianne Chassor, Cyril Marchand, Mathilde Wagman, Jeanne Aléos, Garance Roubieux, qui m'aident à penser et préparer ces émissions. Un petit coucou à Louise Hotte aujourd'hui.